Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre podcast Mot-Clic Juvave.
Cette semaine, on se pose la question, si tu n'avais qu'une vie à vivre, pourquoi aurais-tu une belle culture d'entreprise?
Bonjour Félix.
Salut Mouton.
Bienvenue à l'épisode numéro 24 du podcast Mot-Clic Juvave.
Yes.
Et cette semaine, on se pose la question avec notre titre le plus long qu'on a jamais eu. Pourquoi aurais-tu une belle culture d'entreprise?
Ouais, la culture, ça englobe large, ça là.
Ben, c'est effectivement un peu pourquoi j'ai voulu qu'on ait un titre un peu plus long, parce que avoir une belle culture, ça aurait pu vouloir dire n'importe quoi, genre j'écoute du Mozart puis je lis des livres.
Oui.
On ne voulait pas nécessairement s'en aller dans cette direction-là pour l'épisode d'aujourd'hui.
Mais même la culture d'entreprise, c'est large. Il y en a des sujets à couvrir là-dedans.
Mais tu sais, souvent, quand on parle de culture d'entreprise, on parle un peu comme dans le dernier épisode. Non, pas dans l'épisode, pardon. On parle comme on avait parlé dans l'épisode sur les meetings de Louis-Philippe, qui est ton ami, qui est mon ancien co-animateur au LANATS, qui, lui, dans son entreprise, permettait aux employés un temps libre pour écouter leur podcast préféré à chaque semaine. Hashtag Juvave, bien sûr.
Évidemment. Moi, il est venu me dire dans l'oreille, là, c'est que ça que tous mes employés écoutent.
En fait, c'est le seul qui ont le droit d'écouter.
Ils ont tout bloqué.
Puis tu sais, on pense aussi à des baristas dans les entreprises ou des repas fournis, skatepark et compagnie. Mais il y a aussi, qu'il ne faut pas oublier, le climat de travail. Parce que c'est bien beau de dire on a une bonne culture d'entreprise, on a le monde se prenait avec des guns nerfs puis se tire dessus puis tout, c'est fine. Mais en bout de ligne, on traite nos employés comme de la merde, ils sont pas valorisés, ils ont des deadlines impossibles, puis les managers sont terribles avec eux autres.
Au final, c'est ça, c'est eux qui ont toutes les guns nerfs, puis c'est, c'est eux qui gèrent.
Ouais, c'est ça, tu sais, c'est fait que, tu sais, faut que tu fasses attention de pas juste te lancer dans la culture d'entreprise pour les mauvaises raisons, tu sais.
Ouais, puis en même temps, on parle de d'être attrayant en tant qu'entreprise. On va parler de marque employeur, où est-ce qu'on a tous les avantages sociaux, à quel point on chaîne à l'externe, mais à quel point ça se véhicule, ça se vit à l'interne. C'est ça, la culture d'entreprise, au final.
Ouais, puis tu sais, on prenait comme exemple Virgin, qui eux autres offrent des vacances illimitées à leurs employés.
Ou Antilope, qui est une compagnie qui est dans le marketing, là, on mettra le lien aussi, qui a décidé de faire la même chose, puis ça fonctionne super bien, là.
Mais tu sais, sur papier, moi je me dis, vacances illimitées, ça fait aucun sens. Le gars va juste prendre 12 mois de vacances par année puis il travaillera pas. La réalité, c'est que je comprends pas comment ça fonctionne à l'intérieur. T'sais, mécaniquement, il doit avoir des limitations, des affaires qu'il faut que tu puisses faire de seul compléter tes projets. Mais c'est un peu comme, je te dirais, t'sais, comme les plateformes de sociofinancement où est-ce que tu dis, donnez ce que vous voulez. Il y a des artistes qui sortent des albums sur le net gratuits puis qui disent, donne ce que tu veux. Puis le monde, essentiellement, finissent par payer plus cher que ce qu'il aurait payé pour le CD parce que tu leur as donné le choix.
Meilleur exemple, un mariage.
Ouais.
Hein? Est-ce qu'on fait payer pour le cadeau? Est-ce qu'on décide de l'imposer, le montant? Est-ce qu'on impose un montant au début ou pas? C'est le même combat, là.
Non, c'est ça. Mais j'ai remarqué que le monde, surtout sur le sociofinancement, sont super généreux. Puis souvent, c'est... pour les vacances, c'est la même chose qui se passe. C'est que tu leur donnes la possibilité de jamais être là au bureau parce que tu peux être en vacances tout le temps, mais ils vont t'en donner plus parce qu'ils se sentent respectés, ils se sentent valorisés. Ils ont l'impression que la job travaille pour eux. T'sais. Puis on en parlait un peu avant de commencer l'épisode. Il y a la différence entre vivre le travail et survivre le travail.
Ouais, soit le subir
ouais.
Ou en profiter. Mais ouais, effectivement, mais c'est pas évident parce que il faut réussir à trouver le juste milieu entre un milieu de travail qui va être équilibré et qui va faire bénéficier à tout le monde, à tout type de personnalité, d'un environnement sécuritaire, divertissant, amusant, intéressant, versus ben, la job doit être faite.
Ouais. Puis tu sais, il y a d'autres exemples, là, comme nous, notre coach Agile qui était venu, dont j'ai parlé dans l'épisode sur le meeting, lui, il nous avait fait voter pour notre augmentation salariale.
Ben
en
oui.
Équipe, on a fait une activité où est-ce qu'on a choisi nous-mêmes notre augmentation salariale.
C'est pour ça que tu gagnes 15 trillions par année, je pense.
Puis c'était préapprouvé par l'administration, puis whatever. Puis Toi, tu me parlais tantôt d'un exemple similaire avant qu'on commence l'épisode.
Oui, je me rappelle plus de l'entreprise, mais j'ai vu ça passer sur LinkedIn à un moment donné. Ils ont assis tout le monde dans une salle, puis les gens annonçaient c'est quoi le salaire qu'ils voulaient avoir devant tous les autres employés, devant les pairs. Et le gestionnaire avait, l'employeur avait pas son mot à dire, dans le sens où il avait pré-accepté aussi le même concept. Là.
Il y a toujours son mot à dire.
Il y a toujours son mot à dire, mais il avait donné carte blanche, sachant que, quand tu as confiance en tes employés, ça donne déjà une bonne idée. Mais la personne qui va dire « Moi, je pense que je mérite 50 000 pour whatever la raison, parce que je pense que tu n'as même pas besoin de l'exprimer. » Peut-être que oui, peut-être que non. Mais la personne qui passe juste après, qui dit « Moi, je veux 95 000 parce que je veux 95 000 », on s'entend que les attentes ne sont pas les mêmes.
Mm-hmm. Il y a l'autre variante de ça. T'sais, on parlait des guns nerf dans les bureaux. Ça, c'est de plus en plus en mode en technologie. Nous, on en a au bureau.
Ouais.
Il y a pas mal tous les bureaux au centre-ville où tu pourrais arriver avec un gun nerf, partir une bataille avec tes employés. Puis, tu sais...
Moi, j'ai plein de jouets pour enfants à mon bureau. Je veux dire, je travaille chez nous.
Ouais, c'est sûr que, tu sais, en ce moment, on parle de culture d'entreprise physique, sur place, puis il y a de la plupart des entreprises, depuis 2 ans, il n'y a plus personne dans les bureaux, là.
Un des gros défis actuellement, c'est ça, justement. C'est comment qu'on fait pour véhiculer notre culture d'entreprise dans le travail à distance.
Ouais.
Comment faire pour faire comme si on était ensemble sans être ensemble?
Mm-hmm.
C'est plate, mais c'est ça. Il y a des gens qui vont rester en remote. Mais comment tu fais le onboarding d'un nouveau CFO dans une entreprise s'il ne peut pas rencontrer son monde, s'il ne peut pas être guidé? T'sais, avant, tu faisais faire le tour, après ça, tu passais à travers les dossiers, tu faisais un plan X jours. Bref, la personne était accompagnée dans ce changement-là. Maintenant, t'es chez vous, tu vas recevoir ton laptop dans quelques jours. En attendant, on va jaser, tu vas apprendre à me connaître. Et au final, la personne, une des choses que je vois, c'est que les gens, ils vont plus apprendre à se connaître entre eux, fait qu'il va y avoir plus de PR, mais c'est plus facile de déroger de l'emploi puis de commencer à parler de toutes les autres choses parce que t'es pas dans le milieu de travail.
Ben oui, oui. Genre, tu sais, il y en a beaucoup qui faisaient des activités pour l'innovation. T'sais, on avait parlé brièvement, mais tu sais, Google qui permet aux employés de passer un pourcentage de leur temps à développer leur projet personnel.
Effectivement.
Puis avec la condition que si ce projet-là devient un projet viable, ben Google en garde l'ownership, mais il donne quand même une part à l'employé qui l'a développé.
Ouais.
Fait que le but à la base de ça, c'est d'aller chercher de nouvelles idées, parce que tant qu'à avoir les meilleurs programmeurs, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs SI, aussi bien de les mettre à contribution puis de les faire travailler, puis d'aller chercher des nouvelles idées de produits, puis potentiellement de faire plus d'argent, parce que bon, ça reste une entreprise, on s'entend. Puis ça fait que l'employé se sent valorisé, puis il a l'impression qu'il a... Tu sais, t'as ton échelle salariale, puis là tu te dis, moi mon plafond c'est tant parce que c'est là que je suis, puis je peux pas aller ailleurs. Mais quand t'as l'option de partir un side project qui pourrait devenir le prochain YouTube, ça donne un genre de « oh shit, je pourrais faire... » Parce que c'est ça l'affaire.
Ça ouvre les horizons.
Dans la culture informatique, t'as 2 options. C'est tu travailles pour un startup et t'espères te faire acheter, ou tu travailles pour quelqu'un d'autre. Tout le monde rêve d'inventer le prochain Instagram, le prochain YouTube et devenir millionnaire. Mais si tu peux travailler pour Google avec un bon salaire puis en plus inventer le prochain YouTube pendant que t'es là, c'est le best of both worlds.
Effectivement, c'est que ça va ouvrir les horizons à ceux qui ne pensent pas qu'il peut y avoir autre chose.
Ouais, puis ça te donne une option pour que si tu veux plus d'argent, la porte est ouverte. Trouve une bonne idée, mais l'exécution.
Fait que finalement, la question, c'est en entreprise, une culture qui fonctionne, c'est comment tu peux faire pour véhiculer tes valeurs, oui, de la meilleure façon. Fait que tu sais, l'innovation n'est pas là partout, fait que c'est pas nécessaire. C'est pas toutes les entreprises qui valorisent, par exemple, l'innovation. Fait que tu vas pas aller avoir prendre action comme, mettons, Google qui dit tu as une journée pour tes innovations ou ce que tu veux mettre, des projets personnels ou professionnels que tu décides de starter.
Non, mais c'est qu'il faut que ça s'accote avec ta mission d'entreprise à la base. C'est la mission d'entreprise. Il y a bien des compagnies qui ont même pas encore la mission d'entreprise bien définie parce que c'est difficile.
Puis aller définir sa mission d'entreprise, sa vision stratégique. C'est pour ça qu'il y a des lacs à l'épaule. Des lacs à l'épaule ou des retraites stratégiques. Ceci n'est pas juste de se dire « c'est le moment que je parte à la retraite ». Ça, c'est un autre type de retraite stratégique. Mais les dirigeants ou les décideurs en entreprise vont bien souvent partir quelques jours. Le plus commun que j'ai vu, c'est 3 jours. Aux alentours de l'été, quand les opérations sont un peu plus calmes, dépendamment encore une fois du type d'entreprise. Puis, ils s'en vont là, ils se font... ils sortent du milieu du travail. Là. Fait que, mettons, ils vont dans un chalet, puis il y a un facilitateur qui est là, qui va animer plusieurs formations, des ateliers team building, mais surtout un atelier de vision. Donc, on va aller travailler sur mission, vision, valeur, c'est quoi la planification stratégique pour cette année, les bons coups, etc. Fait que vraiment de prendre le pouls puis de se réaligner. C'est le genre de choses que, d'ailleurs, je vais en faire cet été. Là. J'en anime cet été. Là.
Cool, cool. Non, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Puis, tu sais, à un niveau un peu moins dirigeant, tu as le concept de G-Soft, qui est une compagnie de logiciel à Montréal, qui, eux, ont le concept de la G-House. Puis la G-House, comment ça fonctionne? C'est dans le fond, les employés participent à un genre de Dragon's Den où est-ce qu'ils s'assoient devant un panel d'employés qui vont juger leur idée puis ils vont présenter des idées.
Est-ce que le jugement, c'est bon ou c'est mauvais?
Le concept, c'est que l'idée doit être accomplie en dedans de 1 mois parce que ce qui va arriver, c'est qu'ils vont louer une maison. Anciennement, c'était des chalets dans le nord du Québec. Maintenant, c'est rendu en Espagne, un peu partout. Ils louent une maison pour 1 mois. Ils envoient quelques employés là-bas, une micro-équipe avec tout le monde qui ont besoin. Développeurs, marketing, designers, etc. Puis le but, c'est de, pendant ce mois-là, accomplir le projet qu'ils vont avoir présenté.
Il est circonscrit dans le temps avec les ressources prévues.
Donc, faire etc. la planification, faire les board Kanban, whatever, dépendamment de quelle méthodologie qu'ils décident d'utiliser pour travailler. Puis faire ça en même temps qu'ils sont dans un environnement complètement différent, dans un pays différent, où est-ce qu'il y a du tourisme. Ils peuvent le matin aller déjeuner dans un petit café. Puis ça va. Là. Tant que le travail, tu sais, on s'entend, c'est pas un voyage, mais ça reste un voyage. Tu comprends ce que je veux dire?
Ben, c'est
pas des vacances.
C'est des paysans, mais c'est pas des vacances.
C'est pas des vacances, c'est un voyage. Puis, Simon Debène, qui est le directeur, le fondateur de G-Soft, qui est un visionnaire incroyable, puis qui est un très bon orateur. Je vais poster la conférence qu'il a faite sur la G-House, justement, soit à Kung Fu ou à Jaltour, je suis plus sûr, je vais la mettre dans les liens.
Oui.
Mais lui, il disait, tu sais, à travers ça, il y a des produits qui sont sortis, qui sont des produits qui sont en vente aujourd'hui, que G-Soft offre, que tu peux acheter. Mais aussi bien les produits là-dedans, des fois, il y en a un, c'était un bot. C'était un chatbot qui allait permettre d'automatiser certaines opérations à travers leur chat. Puis c'est quelque chose qui n'aurait jamais mis le temps de faire personne parce que c'est pas une priorité.
Mais finalement, ils l'utilisent dans leurs opérations quotidiennes.
Puis sinon, ben, c'est aussi surtout, ça aide avec le team building, comme on parlait pour ton histoire de retraite. Ça aide à apprendre comment la gestion de projet fonctionne de A à Z. Quand tu es un développeur qui travaille dans ton département tous les jours, tu n'as aucune idée comment les engrenages fonctionnent dans le business. Tandis que là, tu es 8 à 10 personnes dans un chalet.
Avec les expertises de chacun.
À mettre de quoi d'un bout à l'autre, puis à faire de quoi de A à Z. Puis ça, c'est... Bref, c'est super intéressant, puis ça promouvoit la créativité puis l'innovation.
Fait que ça, ils viennent articuler finalement la valeur de l'innovation de l'entreprise à travers ce moyen-là.
Exactement. Puis ironiquement, dans la vidéo qu'on va poster, on voit Louis-Philippe, qui est maintenant président de sa propre entreprise, qui est dans son vidéo d'audition pour le G-Soft.
Ah oui?
Pour le G-House, en fait. Il avait présenté son projet, puis il était parti à G-House.
Super.
Puis il est dans la vidéo de présentation. En tout cas, c'est comme une grosse roue, hein? Mais tu sais, c'est ça. T'as ça, t'as Google qui offre des...
Mais je te dirais que LP puis G-Soft, là, ben, dans le fond, Nexus, G-Soft, des entreprises vraiment innovantes, là, sont vraiment avant-gardistes, selon moi, là, selon mon opinion. Là.
Mais on est à Montréal, tu sais, jadis, ça avait Spotify, mais Shopify.
Effectivement.
Qui maintenant est rendu 100% remote, puis je pense pas jamais qu'ils vont réouvrir leur bureau comme c'est parti.
Ils ont annoncé qu'ils reviendraient pas en remote.
Eux autres aussi ont toujours été dans les tops des endroits où travailler au Québec, comme G-Soft.
C'est dommage, parce qu'il y avait vraiment des beaux bureaux.
Puis tu sais, on parle de bureau, puis tu sais, en technologie, c'est rendu con, là, parce que comme tu dis, des fois, tu as un barista, mais c'est aussi souvent des plans ouverts. Tout le monde travaille avec un laptop, tu peux travailler de n'importe où. Il y a des bureaux fixes pour certains employés qui n'ont pas le choix, genre HR, puis affaires de même que ça te prend une porte. Tu vas pas négocier les salaires dans le milieu du... Quoi qu'on pourrait, dans notre discussion.
Ben, c'est ça, c'est toute une... Écoute, c'est... Je sais pas ce que je peux dire, que je peux pas dire dans le cadre de mes mandats, mais grosso modo, ce que je peux dire, je pense, c'est... Il y a tellement de discussions et de décisions à prendre en lien avec le futur du travail, en lien avec tel type d'emploi. On va faire quoi pour eux? C'est quoi un travail flexible? C'est quoi le travail? Est-ce que c'est la flexibilité d'horaire en termes de tu peux rentrer juste le matin, juste l'après-midi, une journée sur deux, horaire rotatif? Est-ce que c'est tu choisis ton horaire? Est-ce qu'il y a des postes, mettons un centre d'appel? T'as pas le choix d'être au travail?
Non, c'est ça. C'est, nous autres, à notre travail, c'est le monde du service à la clientèle sont désavantagés, entre guillemets, parce qu'eux autres, ils n'ont pas le choix d'être là de l'heure de l'ouverture des lignes jusqu'à l'heure de fermeture des lignes parce que le client va appeler et il n'y a personne pour répondre.
Mais encore là, ils pourraient le faire de chez eux. C'est juste que.
Oui, 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 non, mais on parle d'être en poste. Là. Je parle pas nécessairement d'être physiquement là.
Mais en même temps, quand tu sondes les gens, la plupart des gens en centre d'appel, ils sont tellement pris dans leurs émotions toute la journée parce qu'ils se font engueuler, parce que les gens critiquent beaucoup puis ça tombe sur eux. Hein. C'est le front de l'entreprise.
Mm-hmm.
Ben, ils ont besoin de ventiler puis d'être avec les autres. Ça aide à leur culture d'entreprise que d'être en présentiel puis de pouvoir ventiler avec les autres personnes. Si tu ne vas pas sonder ton entreprise, sonder tes gens sur le terrain, c'est difficile de prendre des décisions exécutives en te disant ben, « ça va marcher ».
C'est sûr qu'en ce moment, tu sais, on parle d'avenir du travail, puis les deux dernières années ont bousculé ça parce que justement, ils ont été obligés de forcer les gens à envisager un futur où les bureaux seraient moins importants, seraient moins présents, tout le monde serait plus à distance. Puis garder des postes à distance permanents, il y a plein de compagnies qui ont décidé qu'ils feraient ça déjà, tu sais.
Ouais.
Fait que ça crée des challenges parce qu'on était dans un moment où les bureaux étaient de plus en plus le fun à aller physiquement.
Oui.
Puis là, soudainement.
Les gens ont investi. On y va plus. Hein? Il y a eu beaucoup d'investissements dans les bureaux.
Ben oui.
Et dans les premiers épisodes, on parlait du clash générationnel. Où est-ce que, ben, dépendamment de la chaise dans laquelle tu veux t'asseoir, on parle des milléniaux jusqu'à la génération, les baby boomers en ce moment qui s'en vont. Ben, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes désirs non plus sur les milieux de travail. Comment tu vas satisfaire toutes les générations dans ta culture, t'sais?
Mais dans le fond, tu viens de parler d'un autre aspect de la culture d'entreprise. De plus en plus, on parle de conciliation travail-famille.
Ouais.
Fait que les horaires flexibles, les temps, t'sais, les imprévus de garderie, que les journées personnelles de maladie.
Hey, surtout en temps de COVID, là. Excuse-moi, mais si ton enfant tousse, il fait juste tousser, là. Il y a une petite toussotte de rien d'hiver, là. Tu peux pas l'envoyer à la garderie pendant 5 jours. C'est quoi ça?
Yes. Bon, c'est pas pourquoi pour les parents, ça a vraiment pas été une bonne période.
Man, une chance que je travaille de la maison. Puis encore là, quand t'as des meetings, oublie ça, là. Non, pour vrai, chapeau à ceux qui ont réussi à passer avec 4 enfants à la garderie et plus. Même moins que ça, chapeau, là, mais c'est quelque chose. Puis la culture d'entreprise doit le permettre d'une certaine façon parce que tu peux pas te permettre de perdre ces employés-là.
Non, mais on parle d'une circonstance particulière avec le COVID. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas eu le choix de s'adapter. Parce que ton enfant ne peut pas à la garderie, vous êtes deux à travailler, c'est sûr qu'il faut que quelqu'un reste à la maison. À un moment donné, je pense que les employeurs ont été plus compréhensifs que d'habitude, même si tu n'as pas d'avantage.
Mais est-ce que ça crée un précédent? Dans le sens où tu l'as déjà permis?
Ça, c'est le plus gros problème. C'est qu'en ce moment, on est en train de vivre des situations, puis c'est ça, comme tu dis. Ça a entraîné la fermeture définitive des bureaux de Shopify. Ça fait que Cisco a annoncé récemment que leur bureau ne réouvrirait pas avant 2023.
Ouais.
Fait que ça crée un paquet d'engrenages. Puis ça, c'est. Mais ça, c'est comme je te dis, ça pourrait quasiment être un sujet d'épisode à lui tout seul parce que l'impact du COVID sur les entreprises. T'sais, on a essayé d'éviter le sujet le plus longtemps possible sur le COVID, mais clairement, 24 épisodes après, on est encore dedans. Fait que je pense qu'on n'aura pas le choix d'en parler bientôt. Mais.
Parce qu'on n'a pas déjà parlé?
Ben, je veux dire, non, mais de parler vraiment de l'impact direct sur les entreprises, peut-être un peu plus en détail.
Ouais, on est passé de conciliation travail-famille à conciliation famille-travail. Là.
Ouais. Puis là, ben, tu sais, on parlait des avantages sociaux tantôt, rapidement, on a fait un petit survol, mais tu sais, c'est. T'as les avantages sociaux, t'as comment l'entreprise te fait sentir valorisée puis respectée, t'as les avantages parasociaux qui sont, par exemple, les repas traiteurs, la garderie gratuite pour tes enfants, les siestes, les pods pour faire des siestes dans l'après-midi.
Ouais. Les jeux vidéo.
Voiture fournie, laptop fourni, etc.
Ouais.
Jeux vidéo, travail, Nerf gun. Puis, quand je parlais de Shopify tantôt, j'ai oublié une partie où est-ce que tout est à plein ouvert, le monde travaille d'où ils veulent, puis il y a de plus en plus d'espace aménagé en salle de réunion dans les grands bureaux. Puis c'est n'importe quoi. Des fois, c'est juste une salle avec des beanbags puis un tableau. Des fois, les tableaux, ça va être des vitres parce que tu peux écrire dans les vitres avec des crayons feutres. Le but de ces pièces-là, c'est justement de te sortir de ton salle de réunion à quatre murs avec des chaises puis une table qui est froide, puis de t'emmener dans un espace créatif puis où tu vas te challenger toi-même.
Te sortir du cadre pour t'aider à think outside the box.
Oui, mais c'est littéralement, à un moment donné, quelqu'un a pris la box puis il a dit « fuck la box ». Non, il a dit « non, c'est quoi, oui ». Je suis tanné.
T'es tanné, là? Tu veux plus comply?
Je suis tanné. Fuck the box, puis on y va. On y va. Le monde font des meetings. Déjà, on enlève les bureaux. On installe des tables géantes, puis des espaces ouverts partout. Le monde font comme ils veulent, ils s'installent où ils veulent pour travailler.
Ah, mais tu fais quoi avec les gens qui ont un besoin particulier?
Ben, c'est ça, mais souvent, l'administration va avoir des bureaux, justement, comme je disais tantôt, pour HR, puis tout ça, parce que t'as pas le choix.
Non, mais je te parle de quelqu'un qui est à mobilité réduite, par exemple. Tu fais quoi? Parce que tu peux pas. Faut que tu aies des trucs particuliers pour des cas particuliers. Mais comme on est dans l'inclusion, faut pas les traiter comme un cas particulier. Fait qu'on fait quoi?
Quand on en reparlera pendant l'épisode sur l'inclusion.
Bon point.
Mais. Non, c'est fou comment le COVID a eu un impact plus grand que je me rappelle, que j'ai réalisé en fait, sur la culture d'entreprise et en général tout, tu sais, parce que. On approchait, comme je dis, le golden age là, des bureaux le fun à travailler. Puis là, on a soudainement...
Ça a pris le bord.
Tout a shut down. Puis là, on est comme...
Puis là, il n'y a plus de meubles au bureau en gros pour meubler chez vous pour que, pour que tu sois bien. Hein.
Ouais. Pénurie de chaises puis papier de toilette la même semaine.
Mais c'est fou, là. Les gens ont réalisé à quel point un domicile, ça peut aussi être un lieu de travail. Parce que de travailler sur ton comptoir où est-ce que tu manges ton bagel pendant que tes petits déjeunes à côté, c'est pas l'idéal.
Non, effectivement. Non, ça a créé ça. Tu sais, ça a eu ça de... On va dire positif, tu sais.
moi, je considère ça vraiment positif. Sauf que c'est un challenge pour les entreprises qui n'ont pas encore réfléchi à comment faire parce que la nouvelle normalité est là. Il y a juste la demande sur le marché, là. Ben, on s'entend que la nouvelle génération qui arrive et qui dit « Pourquoi je travaillerais pour toi? Est-ce que tu offres le travail flexible? Je vais-tu pouvoir aller voir mon film si ça me tente parce qu'il y a une sortie cette journée-là? » OK, là, je pousse un peu, mais quasiment ça, là. C'est « Est-ce que je peux prendre off parce que j'ai une activité personnelle cette journée-là qui est très importante pour moi?
Mm-hmm. »
Mais tu fais quoi en tant qu'employeur?
Ta culture, t'as pas le choix au niveau de l'acquisition de nouveaux employés. T'as pas le choix au niveau de... fidélisation de tes employés que t'as ou créer genre une loyauté puis une rétention.
Oui, parce que tu mobilises. En mobilisant, tu les fidélises. Puis parce que tu les fidélises, t'as pas besoin de les retenir. La rétention est implicite.
Puis booster la morale, booster la créativité, booster l'innovation, puis ironiquement, booster la production.
Ben, pas ironiquement.
Mais moi, ça, le fait d'avoir un skatepark dans ta business, que ça te donne un meilleur rendu de programmation, j'ai jamais été capable de faire le... C'est le graphique, là, mais ça marche pas.
La corrélation directe.
Je regarde le graphique, là, puis je suis comme, bon, skateboard, programmation. Ah oui, il y a clairement un lien direct.
Ben, c'est sûr qu'il faut que tu passes par une autre variable qui est motivation.
Ben, c'est ça. C'est que tu crées un désir d'être au travail. Le monde aime ça, être là. Juste des 5 à 7 sympathiques.
Ouais, on n'a plus.
Juste avoir des vendredis bières. T'sais, nous autres, on avait pas mal everyday bières au bureau. On a recommencé tranquillement.
Tous les jours finissent par I.
Mais tu sais, mon chum d'homme, lui, à son garage, tous les vendredis, à partir de 4 heures, ouvre la bière, puis là, le monde qui ont fini de travailler, il reste, il niaise, puis le monde qui finit de travailler, il travaille, puis des fois, il y a des amis qui viennent, puis juste...
Ça chill.
Ça devient un genre de 5 à 7 improvisé tous les vendredis.
Rendu là, c'est pas vraiment improvisé. Hein,
non, mais c'est jamais c'est jamais à l'horaire. C'est ça, mon point. Ah, c'est pas... Ouais.
En fait, on revient encore au fait que c'est pas forcé. Tu sais, tantôt, ou dans un autre épisode, je me rappelle plus, on parlait de lorsque tu es obligé de faire quelque chose, ça te tente moins. En fait, c'était dans cet épisode-ci, c'est tantôt. On disait que ben, s'il faut que tu prennes 3 semaines de vacances, ça va te faire suite pour en avoir 4. Ou tu vas être comme, ben, je suis chanceux, j'en ai 3, puis tu vas essayer de les optimiser. Si on te dit tu peux en prendre autant que tu en veux, tu vas peut-être en prendre 2 parce que tu es juste toujours bien. Puis tu te dis, ben, mon employeur me fait confiance, je peux les prendre quand je veux, fait que je vais les prendre quand j'en ai de besoin. Plutôt que de forcer la chose puis de les prendre même si tu n'en as pas de besoin ou si tu ne les veux pas.
Oh oui, mais écoute, moi, tu sais, les vacances recommencent en mai, puis là, il me reste une journée de vacances à passer, il faut que je me dépêche à la prendre. T'sais.
Ça, c'est un concept que je trouvais un peu absurde. Là.
Ouais, mais il y a beaucoup de compagnies qui sont d'accord comme ça.
Tout à fait. Ben, au final, si t'as pas été capable de prendre les journées de vacances que t'étais supposé prendre, le problème commence par là. Théoriquement, si t'as pas pris tes vacances, c'est... Des vacances sont là pour une raison. Là. Théoriquement, c'est supposé être... J'aime pas ça de dire ça comme ça. C'est supposé être épuisant à travailler. C'est pas nécessairement vrai, mais théoriquement, le terme travail, c'est de produire quelque chose, donc un effort. Nécessairement, ça épuise de produire quelque chose, de faire un effort. Fait que mentalement, t'as besoin de te ressourcer, de prendre une pause. Si t'apprends pas, ben c'est là que ça devient nocif. Là.
Mais en même temps, des fois, c'est une question de... On est en COVID, tout est fermé, je veux pas aller en voyage, qu'est-ce que je vais faire de vacances, m'aller travailler à la place.
Ouais, m'en profiter pour piler un peu d'argent, puis rendu là, je ferai mon voyage quand la COVID finira.
Tu sais, c'est un autre side effect du COVID. Quand t'as ton trajet le matin, c'est passer de ton lit à ta cuisine, à ton bureau, à ta cuisine, à ton lit. Puis ça, c'est ta journée de travail. Ben, c'est sûr que. Puis tu fais rien, tu sors pas, tu vois personne, parce que tout est fermé. C'est moins épuisant en termes de j'ai besoin de vacances. Mais en même temps, mentalement, c'était très drainant. Là. Je te dis. On va s'en garder pour le sujet parce que je sais qu'il y a un épisode à faire là-dessus.
Faisons cela.
Fait que toi, c'est quoi l'affaire la plus wild que tu as vue dans une entreprise?
Je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce que j'ai vu qui était le plus wild parce que tout ce qu'on a vu là, c'est les choses que j'ai vues avant la pandémie. Fait que c'était wild avant la pandémie, puis maintenant, je te dirais que c'est rendu ordinaire.
Ouais, moi, tu vois, si j'avais à faire un choix là, je dirais... J'hésite entre deux, en fait. Là, j'aime bien Molson qui donne la bière gratuite à ses employés. Ça, c'est cool. Mais revenir à ce que je disais plus tôt, puis ça, c'est un avantage traditionnel. J'en ai parlé dans un des premiers épisodes. Bose, qui donne à chacun de ses employés des parts de l'entreprise.
Ah, ouais,
c'est une petite entreprise. C'est pas genre 5000 employés. Là, c'est pas genre Cisco qui donne des stock options que tu peux acheter genre 2 shares par année, puis genre 25 000 shares. Là, c'est... Tu fais partie de 25 actionnaires de l'entreprise, genre, mettons. Tu as peut-être plus que 25, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est pas...
Ouais, il y a beaucoup de programmes de participation en action où est-ce que l'employeur met une partie si tu mets une partie, puis des fois, l'employeur va mettre deux fois plus que ce que tu mets si tu es en action. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, une autre affaire, ah oui, quand je travaillais chez Transat, les voyages pour pas cher, c'est incroyable. Ça aussi, pour ceux qui aiment voyager, là, les compagnies aériennes... C'est un bon moyen pour eux de fidéliser leurs employés que de leur offrir la possibilité de voyager et d'en parler par la suite.
Pas juste ça. Un que je viens de me rappeler, j'ai un de mes amis qui travaillait pour Evenco dans le temps que ça s'appelait Gillette Entertainment Group. Puis eux autres, dans le fond, la façon dont ça marche, quand il y a un show de Britney Spears, là, ils veulent pas de siège vide. Fait que 24 ou 48 heures avant le show, tous les employés ont accès à des billets, soit gratuits ou à genre 5-10$. Parce que le but, c'est de remplir les sièges.
Ouais.
Moi, je me rappelle, il nous arrivait, on est allé voir Circus de Britney Spears, on est allé voir le Reunion Tour de No Doubt qu'ils ont fait, on est allé voir plein de shows comme ça, qui nous ont en tout et partout, je pense que ça m'a coûté 50$ pour aller voir une dizaine de shows. Puis des très bons billets. Là. Genre, il y avait une fille à Britney Spears à côté de moi, son billet avait coûté 175$. Moi, j'étais comme, ben, moi, c'était gratuit.
Ouais.
Mais tu sais, ils n'ont pas le choix parce que, comme je te dis, dans les vidéos, ça paraît mal quand les sièges sont vides. Fait que tu veux que ça soit plein le plus possible.
Est-ce que tu portais un t-shirt écrit « J'ai payé mon billet 5$ »
Non.
OK.
Mais c'est ça, bref, tu sais, dépendamment dans quel domaine tu es, tu as des avantages matériaux ou des avantages en stock options, en actions qui peuvent être très avantageux.
Puis encore là, ça dépend aussi de l'entreprise. Peut-être que ça vaut pas la peine d'aller dans ces options-là. On n'est pas en conseil financier, là, fait que...
Non, c'est ça. Fait que je vous lance la question à vous. Dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez en ce moment ou dans vos entreprises passées, c'est quoi l'avantage que vous avez trouvé le plus cool ou l'aspect de culture d'entreprise que vous avez trouvé le plus intéressant?
Et sinon, si vous réfléchissez à ça serait quoi l'avantage le plus hot que vous pourriez avoir, on est curieux de vous lire là-dessus. Ça serait vraiment hot de voir si on mettait toutes les idées ensemble, quelle entreprise on bâtirait. Venez nous écrire sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. On va voir quelle entreprise on va pouvoir bâtir ensemble.
C'est ainsi que se termine notre épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Merci pour votre écoute. Et on se voit la semaine prochaine. Mon nom est Mouton.
Moi, c'est Félix.
Et n'oubliez pas de vivre
pleinement votre vie.